Bonjour à tous et bienvenue sur notre podcast Vis-à-vis, le podcast du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer. Alors c'est la seconde saison de ce podcast et vous le savez maintenant, on parle de notre quotidien et des agents du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer qui nous protègent, qui aident, qui orientent, qui réglementent aussi des moments forts de notre existence au service de nos concitoyens. Je suis très contente aujourd'hui parce que j'ai successivement trois agents de ce ministère qui vont nous apporter leur témoignage, leur expérience au sein de ce ministère et ils ont des profils un petit peu atypiques parce qu'ils ne sont pas des agents de l'État à proprement parler. Ils sont des réservistes, des volontaires au sein de ce ministère. Alors, ils vont nous en parler. Il y a quelque temps, nous évoquions les spécificités des nuiteux, ces agents qui travaillent de nuit pour le ministère de l'Intérieur. Et là, c'est un autre statut, finalement, d'autres conditions de travail qu'on va évoquer avec eux. Et ils sont importants parce que vous le verrez, sans eux, le service public ne tournerait pas de la même manière et le service public ne serait pas d'aussi grande qualité pour ceux qui en bénéficient. Alors, je vais leur passer successivement la parole pour qu'ils nous racontent leurs histoires. Peut-être on va commencer avec toi, Johan. Merci d'être présent. Est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer tout ce que tu as fait pour être là aujourd'hui dans ce studio?
Bonjour, je m'appelle Johan. Je suis actuellement en prépa pour passer les concours d'officier et de commissaire de police. Je suis titulaire d'un Master 2 de Sciences Po de l'École d'affaires publiques en spécialisation sécurité et défense. Je fais partie de la première promotion de réserviste opérationnel de la police nationale, actuellement affecté au commissariat de police du 10e arrondissement.
Qu'est-ce que ça veut dire être réserviste opérationnel de la police? Tu es tout jeune, est-ce que tu es armé par exemple sur le terrain?
Alors oui, j'ai 24 ans et oui, je suis armé. J'ai obtenu une formation l'été dernier, donc l'été 2022, pour devenir réserviste. J'ai effectué cette formation à Paris et dans le 93, qui était pour moi une formation d'un niveau excellent, comparé notamment à la formation de la réserve de l'armée que j'ai effectuée pendant 5 ans auparavant. C'est vraiment d'un niveau identique et notamment au niveau de l'utilisation des armes, j'étais très satisfait de la formation qu'on m'a proférée.
Et pourquoi tu as décidé de t'orienter vers ce format finalement de la réserve, puisque tu veux aussi être policier d'active?
Pour moi, la réserve, c'était une très bonne façon de mettre les pieds dans l'institution avant de la rejoindre pour de bon, d'avoir une idée de l'institution que je voulais rejoindre, pardon. C'était également une façon de m'engager avant d'être policier, avant d'avoir un vrai travail. Enfin, un vrai travail, pas que le fait d'étudiant ne soit pas un travail, mais d'avoir un engagement qui ait du sens avant d'avoir un travail.
Et des premiers pas dans la police, qu'est-ce que tu en ressors?
Alors, j'avais un peu d'appréhension parce que j'avais énormément de pression, le fait de porter une arme sur la voie publique, le fait de m'intégrer dans un environnement qui est totalement nouveau, d'être aussi jeune dans cet environnement-là. C'était quelque chose que j'appréhendais beaucoup et finalement j'étais extrêmement bien accueilli par mes collègues du 10e arrondissement qui m'ont d'abord impressionné par leur sens du service et leur professionnalisme. Ils m'ont beaucoup accompagné, ils m'ont fait confiance. Je passe énormément de temps sur la voie publique. D'ailleurs, je suis quasiment tout le temps sur la voie publique lors de mes vacations. J'ai très rapidement pu monter en compétences, je pense. Et ça, c'est vraiment, vraiment grâce à la confiance que m'ont donné mes collègues.
Alors je me tourne vers ton voisin, Charles-Antoine. Merci d'être avec nous.
Merci Camille, merci de me recevoir. Alors effectivement, Charles-Antoine, un petit peu plus âgé que Johan.
À peine.
J'ai 52 ans, je suis marié, j'ai deux enfants et je suis agent de l'État parce que je suis auditeur au pôle audit de l'Inspection Générale des Finances à Bercy.
Donc le ministère de l'Économie et des Finances, c'est ça?
Exactement.
Ça alors?
Comme quoi tout est possible.
Et alors, qu'est-ce que tu fais pour le ministère de l'Intérieur? Parce que toi, tu es donc 100% service public.
Je suis 100%
ton
service public.
Ton job principal, mais aussi cette fonction de réserviste.
Exactement. J'ai vraiment un sens aigu du service public et des missions de service public. Moi, ce qui m'a amené dans la réserve opérationnelle, non pas de la police, mais de la gendarmerie nationale, c'est trois dates très importantes pour moi. Deux, vous allez me dire, ça fait un petit peu cliché. Les deux premières, c'est 1995 et 1999, les années de naissance de mes filles. Et la troisième, très importante, c'est 2015. 2015, avec les actes que l'on a connus sur le territoire. Et si vous faites le rapport, 2015, ma première fille, jeune adulte, 20 ans. Et 1999, c'est ma deuxième, 15 ans, en pleine adolescence. Donc une jeune adulte et une jeune adolescente qui se trouve dans ce contexte-là, je me suis dit, c'est pas possible.
Une prise de conscience.
Ouais. Il faut agir, je peux pas rester sans rien faire. J'entendais aux informations que la police, la gendarmerie, tous les services d'ordre étaient débordés. Et je me suis dit, il faut aller leur donner un coup de main. Et le coup de main, c'était cet engagement dans la réserve opérationnelle. Au début, je croyais que moi, étant administratif, j'allais être employé dans les bureaux.
Mmh. Et ce n'est pas le cas ?
Pas du tout.
Ah bon ?
Très rapidement, je me retrouve à Beynes, en instruction.
Où ça ?
Le camp de Beynes. Ah. Le camp de Beynes, c'est un centre d'entraînement de la gendarmerie nationale.
Et c'est où en France ?
Dans le 78.
Dans le 78, d'accord.
Et très rapidement, je prends conscience de l'ampleur de cet engagement. Parce que, comme Johan, on se retrouve habilité au port de l'arme. On nous apprend vraiment avec insistance tout le cadre légal de l'utilisation d'une arme. Et on se retrouve sur la voie publique avec une arme. Et là, on prend la chose au sérieux et on se dit, ce n'est pas un jeu.
Toi aussi, tu es sur la voie publique, comme Johan ?
Je suis principalement sur la voie
publique. En patrouille,
donc. J'ai un petit passé à la garde républicaine.
Républicaine, ce sont les chevaux.
Ce sont les chevaux, c'est l'infanterie aussi,
c'est
la musique aussi. Et pour ma part, c'était la protection et la sécurisation des palais. Donc ça va du Sénat jusqu'à l'Élysée. C'est une représentation de la gendarmerie qui est totalement différente de celle qu'il y a sur le terrain. C'est beaucoup de protocoles, c'est beaucoup de patience et c'est un autre métier. Donc ma porte d'entrée a été la garde républicaine. Et puis au bout de 4 ans, j'ai voulu découvrir une autre facette de la gendarmerie et j'ai demandé mon détachement à la gendarmerie départementale du 77. Et là, oui, c'est sur la voie publique, avec un public totalement différent de ce que j'avais connu à la garde républicaine et des expositions aussi totalement différentes.
Comment tu fais pour faire ton travail la semaine, j'imagine ? Tu travailles du lundi au vendredi pour le ministère des Finances et après le week-end, les vacances, comment ça se passe ?
Alors, il faut savoir
que de réserve.
Dans la fonction publique, comme beaucoup d'entreprises aussi, on a cette possibilité d'avoir un nombre de jours qui nous est accordé pour faire cette activité de réserviste. Pour ma part, j'en ai 30. J'essaie de concilier ma vie professionnelle, ma vie privée et la vie de la réserve aussi.
Trouver le bon équilibre.
Le bon équilibre, ce n'est pas toujours évident parce que les trois sont très prenantes. Ces trois activités sont à gérer avec grande importance parce que on se laisse vite dépasser par l'une ou par l'autre.
Il faut un bon agenda déjà.
Il faut un très bon agenda et puis un bon équilibre. Je pense qu'il faut être...
Une famille compréhensive ?
Oui.
C'est ça ?
Oui. Alors bon, j'ai attendu aussi que mes filles soient autonomes justement pour pouvoir m'occuper de moi. C'était quelque chose qui me tenait à cœur. Et voilà, maintenant je le réalise et j'essaie de trouver le meilleur équilibre entre les trois activités.
Est-ce que des fois, quand tu retournes au ministère des Finances le lundi matin, tu te dis que ton week-end, par exemple, dans la réserve de la gendarmerie, ça t'apporte aussi quelque chose en termes professionnels pour ton job ?
Ça apporte énormément. Déjà, en tous les cas, pour ma part, mon comportement personnel. C'est-à-dire qu'on a ce rôle d'exemplarité. Dans ma vie de tous les jours, j'essaie d'être le plus responsable possible parce que ce que je vais imposer à certains contrevenants, il faut que moi-même je me l'impose. Je m'impose cette ligne de conduite pour être le plus citoyen possible. Donc oui, forcément, ça a un impact sur mon comportement de tous les jours, aussi bien sur ma vie professionnelle que sur ma vie privée. Mais je dirais que ma vie privée a aussi un impact sur ma vie professionnelle et sur mon activité de réserviste. Et mon activité professionnelle a aussi un impact. Quand je vais auditer des structures, j'ai un comportement le plus responsable possible, le plus digne possible, parce qu'il faut respecter. C'est une forme de respect vis-à-vis de tous mes partenaires.
Alors Mélanie, je me tourne maintenant vers toi.
Oui, bonjour Camille.
Tu es sapeur-pompier volontaire dans l'Essonne. Et toi aussi, tu as, j'allais dire, une triple vie. Un job d'un côté et cet engagement fort avec le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer pour la protection de nos concitoyens sur ces aspects secours à victimes, lutte contre l'incendie. Est-ce que tu peux me parler de ton quotidien ?
Oui, alors effectivement, je fais partie du SDIS 91, peu connu du grand public parce qu'en effet, on confond souvent les pompiers de Paris avec les pompiers dit fonctionnaire rattaché au ministère, justement. Alors, un SDIS, c'est un service départemental d'incendie et de secours. Et effectivement, on peut y postuler, en fin de compte, dès l'âge de 17 ans jusqu'à 55 ans.
Il y a beaucoup de jeunes chez les pompiers.
Il y a beaucoup de jeunes. On a même possibilité d'être jeune sapeur-pompier volontaire dans les casernes à partir de 13 ans. Ça crée des vocations. C'est un métier qui a besoin en plus de recrutement actuellement.
Et de femmes aussi ?
Et de femmes. Alors, dans l'Essonne, effectivement, on progresse puisqu'on était à 10% et là, on atteint aujourd'hui 15% de femmes dans les effectifs. Il faut savoir, donc, volontaire, en fin de compte, sur le terrain, on ne voit pas la différence entre professionnel et volontaire.
Vous faites le même boulot.
On fait exactement le même travail, les mêmes missions, on a les mêmes grades. Mais pour autant, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'il y a 80% de pompiers volontaires en France. Donc finalement, c'est un peu nous qui faisons tourner la boutique. Et je pense que c'est important de faire la promotion du volontariat, et c'est ce qu'a fait le SDIS de l'Essonne il n'y a pas si longtemps que ça, j'en ai été le modèle d'ailleurs, pour montrer que c'est très accessible finalement.
Alors toi, quelle est ton histoire ? Comment on se retrouve un jour volontaire, sapeur-pompier volontaire dans l'Essonne à 37 ans, Mélanie ?
Alors pour ma part, je suis fan de sport. Ma vocation, il est clair que c'est le sport en général. J'ai fait des études assez classiques puisque j'ai fait STAPS, fac de sport. Puis ensuite, j'ai tourné sur des métiers qui se dirigeaient sur la direction à la population, jeunesse, sport. Et puis, j'ai eu de la famille. C'est pour ça que j'ai postulé en tant que volontaire, en attendant comme monsieur que mon petit soit suffisamment autonome pour le faire, en tout cas. J'avais mon cousin et mon oncle qui étaient volontaires, donc lors des repas de famille, j'avais sans arrêt des anecdotes d'action, voilà, d'aide pour les autres, de servir. Et puis bah, je me disais, vu que je frôle un peu l'hyperactivité, pourquoi pas utiliser cette énergie au service des autres. Et puis on retrouve le côté sportif aussi. J'ai postulé au SDIS de l'Essonne, j'ai fait le parcours classique d'un volontaire, c'est-à-dire qu'on a des parcours sport qui sont sur Internet. C'est des parcours classiques, Luc Léger, que la gendarmerie et police connaissent, avec les pompes, les renforcements musculaires, voilà, du sport, on va dire, accessible à tout le monde si on s'entraîne. Et puis ensuite, on a notre motivation, pourquoi on veut s'engager.
C'est un entretien qu'on passe avec le...
Voilà, oui, voilà, tout à fait. On passe un entretien dans la caserne de secteur. Donc en fait, il suffit
Il faut aller à la caserne où on aimerait bien travailler. Et
pour la plus proche de son domicile.
D'accord. Alors toi, quel est ton rythme de volontariat par rapport à ton exercice professionnel aussi ? Comment tu t'organises ? Avec un enfant, si j'ai bien compris.
Oui, tout à fait. J'ai la chance d'avoir mes parents à la retraite, déjà, qui habitent dans ma commune. Donc, mon fils n'a jamais connu la garderie. Et déjà, tous les mardis soirs, il est chez mes parents pour qu'il puisse le garder le mercredi. Donc déjà, tous les mardis soirs, toutes les semaines et toute l'année, je suis de garde volontaire la nuit.
Merci les grands-parents, en passant.
Tout à fait. Donc, tout est possible. C'est juste une question d'organisation. Et puis ensuite, c'est pendant les vacances scolaires, les week-ends, voilà. Le chef de centre a une attention particulière sur nos disponibilités. C'est assez souple, finalement. On doit poser à peu près 48 heures de garde dans le mois, sachant qu'en fin de compte, sur un logiciel, on doit poser les gardes un mois avant.
Donc on peut s'organiser bien en avance.
On peut s'organiser en avance, et si jamais on a un souci, on appelle la caserne et en général, ils s'arrangent. Voilà, c'est quand même assez souple finalement.
Et donc quand tu travailles la nuit, tu dors à la caserne ou t'es rappelable depuis chez toi à proximité ? Comment ça se passe ?
Alors moi je suis dans un gros centre de secours qui est Corbeil-Essonne. Donc là pour le coup, il y a plusieurs possibilités. Mais les grands centres de secours, on dort et on passe les gardes sur place effectivement. Donc quand je suis de nuit de 19h30 à 7h30 du matin. Et en effet, je renchaîne à 9h mon travail le lendemain.
Le temps d'une douche, hop.
Pour autant, je ne suis pas la plus fatiguée.
Tu fais ça depuis combien de temps ? Est-ce qu'il y a de l'usure au bout d'un moment ? D'ailleurs, la question se pose à tous les trois. Est-ce qu'au bout d'un moment, on fatigue de ce rythme effréné au service des autres ?
Alors, je fais ça depuis 5 ans, donc ça commence à faire. Non, en fait, ce qui est super intéressant, c'est que ça me fait monter en compétences dans mon métier, puisque donc, je suis directrice des sports aujourd'hui. Et que l'air de rien, j'ai beaucoup de management, comme disait monsieur, bon, faut être exemplaire sur certains points. Et puis, j'ai grandi. Ce métier m'a fait grandir en termes de maturité, parce qu'effectivement, ce qu'on voit n'est pas banal, on va dire. On parlera des anecdotes tout à l'heure. Et ça fait grandir sur, bah, sur les deux métiers que j'ai, puisque je suis directrice des sports et prof de karaté.
Pour ce qui est de du rythme, moi j'ai pas un rythme, je l'ai pas mentionné dans ma présentation, mais moi j'ai pas un rythme qui est comme le vôtre. Déjà, ça fait beaucoup moins longtemps que je suis policier réserviste.
Tu as commencé quand,
Yoann ? La première promotion a été formée l'été dernier, donc j'ai commencé en soi en septembre, mais la préparation des écrits du concours m'a poussé à commencer vraiment en fait en janvier, où vu que j'ai un calendrier qui dépend cette année en tout cas des concours. J'avais beaucoup de temps.
C'est assez souple, en fait.
Exactement. Et donc, le temps que j'avais entre la préparation des écrits et la préparation des oraux, je l'ai dévoué à la réserve opérationnelle. Et donc, moi, j'ai fait, plutôt que de temps en temps des week-ends, des gros blocs.
Des grandes périodes.
Exactement.
Okay. Et c'est très flexible aussi ? Ou comment ça se passe avec c'est qui ton chef ? C'est le commissaire du commissariat ?
Alors, en soi, mon chef, oui, c'est le commissaire. Mon contact au commissariat, c'est le major qui dirige la voie publique.
Et c'est avec lui que tu t'organises pour les périodes où tu peux être présent ?
Exactement, je m'organise le mois précédent. En soi, j'ai juste à lui fournir mes vacations et il m'intègre automatiquement dans les brigades puisqu'ils ont toujours besoin d'effectifs supplémentaires. Donc, je suis toujours le bienvenu.
T'es pas toujours dans la même brigade, J1, J2,
J3 ? Non, je tourne. En fait, moi, je fais surtout l'après-midi parce que c'est là où j'apprends le plus, où il se passe le plus de choses. Parfois le matin, j'ai pas encore fait la nuit parce que je considère que je me sens pas encore prêt pour passer à la nuit. C'est à mon avis encore une période particulière, surtout dans le 10e arrondissement où il se passe beaucoup de choses. On a la gare du Nord, on a les stations Barbès-Rochechouart, La Chapelle, Stalingrad, où déjà l'après-midi on a de quoi faire. Et puis c'est un rythme, enfin pour moi c'est des journées qui sont extrêmement fatigantes parce que c'est des journées où on est, je pense que mes deux collègues à table diront la même chose. C'est des moments où on a un niveau d'attention qui est extrêmement élevé. On ne peut jamais vraiment
relâcher la pression.
Exactement. Se détendre quand on est sur la voie publique, parce qu'il peut toujours se passer des choses. Il faut faire attention parce qu'on porte une uniforme, qu'on est armé. Et donc, c'est là que je me suis rendu compte de la difficulté de ce métier. Et j'ai une pensée pour mes collègues qui, eux, font ça H24 toute l'année, depuis plusieurs années. Et c'est là que je me suis rendu compte de l'engagement qu'il faut pour ce métier-là.
Est-ce que tu te souviens de ta toute première vacation, la première fois que tu as porté pour de vrai l'uniforme, l'arme, et que tu es parti en patrouille pour la première fois ? Est-ce que tu t'en souviens ?
Oui, je m'en souviens. Alors, j'ai fait une première vacation, mais au poste, donc où je n'étais pas sur la voie publique en septembre. Ensuite, j'ai fait la préparation des écrits, et 4 jours après mes écrits de commissaire, j'étais propulsé sur la voie publique. Donc, c'était un gros choc, parce que je passais mes journées à la bibliothèque, à d'un coup me retrouver au quartier de Barbès-Rochechouart, l'arme à la ceinture, à devoir patrouiller dans le quartier de Barbès-Rochechouart, notamment faire des contrôles d'identité sur des personnes qui vendaient des cigarettes à la sauvette. Et c'est vrai que c'est quand même... j'étais jeté dans le grand bain, quoi. Et heureusement que j'avais des collègues qui étaient très... qui me faisaient pas de cadeaux, hein, qui me poussaient à prendre des initiatives, à agir tout de suite. Mais c'est ça qui m'a permis de monter rapidement en compétences, je pense.
Et c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, mais ça t'aide beaucoup à te préparer pour les concours de la police que tu souhaites. Je crois d'ailleurs que tu es en train de passer ce concours de commissaire de police. Tu trouves que ça vient compléter finalement les préparations théoriques que tu as par ailleurs ?
Oui, tout à fait. Pour moi, c'est même quelque chose d'indispensable. Maintenant que la réserve opérationnelle existe, je pense que c'est pas une étape obligatoire, mais je pense que c'est très bien que toutes les personnes qui souhaitent devenir officier, commissaire et gardien de la paix passent par la réserve. J'ai beaucoup de collègues de la réserve opérationnelle qui souhaitent rejoindre la police nationale, qui préparent également des concours, que ce soit gardien, officier ou commissaire. Et alors non seulement pour moi, c'est quelque chose que je pourrais mettre en valeur lors de mes oraux auprès du jury, mais personnellement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté parce que je sais que c'est une institution que j'ai envie de rejoindre maintenant.
Et sûrement qu'il te restera plein de choses après quand tu seras commissaire de police, de ce que tu as vu sur le terrain, de ce que tu as appris durant ces périodes.
Oui, alors si je suis commissaire de police, oui.
On te supporte et on te le souhaite.
Oui, c'est une... j'y pense tous les jours quand je suis au commissariat. C'est une expérience sur laquelle je pourrais m'appuyer, à mon avis, toute ma vie, si j'ai la chance de réussir ce concours. Parce que je pense que je ne repasserai jamais par cette étape-là.
Bien sûr. Alors, je me tourne vers toi, Charles-Antoine. À 52 ans, comment ça se passe ? Est-ce qu'on peut monter en grade dans la réserve ? Est-ce que tu seras amené un jour, ou peut-être tu le fais déjà, à encadrer des plus jeunes qui rejoignent les rangs de la gendarmerie ?
Mais alors, tout à fait. Alors, il faut savoir que c'est nous sommes militaires à part entière quand nous portons l'uniforme. Donc l'avancement est exactement le même que celui d'un personnel d'active. Bon, à 52 ans, je suis monogalon. Je suis sous-officier monogalon. Le temps m'est compté. Je veux dire, 52 ans, je reste lucide. Je vais
encore
pas
une
faire...
cinquantaine d'années, oui. Quand même.
Mais quand même, je suis très étonné parce que j'ai des collègues qui ont 20 ans de réserve. Hein, ça a commencé en 99, 20 ans de réserve. Et moi, j'ai découvert ça sur le tard. Donc, tout ça pour dire que tout est possible, surtout quand on est jeune. Et pour rejoindre un petit peu ce qui vient d'être dit, c'est que ça peut déclencher des vocations. Il y a beaucoup de jeunes qui mettent un pied dans l'institution et ça réveille en eux cette volonté de l'intégrer sur le plan professionnel. Donc, c'est très, très intéressant. Et pardonne-moi, Camille, mais j'ai oublié le second volet de ta question.
Est-ce que toi, tu montes en grade ? Ou est-ce qu'on peut monter en grade et est-ce que les anciens encadrent les plus jeunes recrues? Comment on transmet finalement, alors toi ça fait que quelques années que tu es dans la réserve, mais comment on transmet aussi sa maturité, son expérience de la vie à ses plus jeunes camarades?
L'encadrement en tous les cas dans la réserve opérationnelle du 77 de Seine-et-Marne, elle travaille en totale autonomie, c'est-à-dire qu'on arrive dans nos brigades de rattachement et on s'arme seul, on prend nos véhicules et on prend nos consignes auprès de l'officier de permanence. Donc là, l'encadrement est assuré par un système de validation de certains réservistes en tant que chef de patrouille. Et une fois qu'il est validé chef de patrouille, c'est lui qui est responsable du dispositif. C'est-à-dire qu'au minimum, on est trois par patrouille, dont un chef de patrouille. Donc forcément, il y a de l'encadrement. Et là, c'est pas uniquement une question d'âge et de maturité, c'est une question de validation. Chacun, il appartient à chacun, à partir du moment où il est sous-officier de réserve, de passer les tests pour être chef de patrouille et d'encadrer une équipe.
Depuis ces quelques années où tu es réserviste, est-ce qu'il y a une intervention qui t'a plus marqué, où tu t'es dit, là, j'ai changé quelque chose pour la vie de ces personnes, ou j'ai sauvé une vie, ou est-ce que tu as... Est-ce que tu as eu une intervention plus marquante que toutes les autres ?
Il
n'y
en a pas qu'une. Alors, la première qui m'a vraiment la plus marquée, et je pense que les volontaires pompiers vont comprendre, c'est que le premier décès, ça c'est quelque chose de très, très, très violent auquel on n'est absolument pas préparé. Lors de nos tests, on nous apprend à faire de la progression, mais, très bien. Mais le premier, pardonnez-moi l'expression, mais le premier cadavre, c'est quelque chose de violent. Et les images, on se les fait en boucle. Et pour les évacuer, ça, c'est quelque chose de très marquant. Mais quand même, un petit quelque chose de positif, c'est quand un mise en cause nous demande, justement, le thème de cette émission, ce qui nous a amené à faire ce métier. Parce que quand on est sur le terrain, on ne voit pas qu'on est réserviste. Et donc là, le mise en cause me demandait, lui qui passait de galère en galère, qui avait à peine 20 ans, me demandait comment il pouvait s'en sortir et pourquoi moi, je n'avais pas mal tourné. Et là, s'instaure une petite relation, un petit lien qui était inattendu. Et c'est les bons petits côtés d'émission. Parfois, vous voyez, on a l'impression d'être utile. Pas parfois, je pense que nous sommes souvent utiles. Mais là, ça fait plaisir que des jeunes qui veulent s'en sortir, même s'ils ont un parcours assez écorché, nous posent des questions et ça peut susciter certaines volontés de leur part de s'en sortir.
En fait, gendarme, c'est un métier très social, finalement.
Carrément, surtout dans le 77, nous intervenons, nous, dans le milieu rural, hein, puisque les zones police, c'est pour les villes, et puis nous, on est plutôt en zone rurale, et c'est vrai que le social est très important, on intervient dans la vie privée des gens pour des violences intrafamiliales, donc on rentre dans leur intimité, dans leurs problématiques, et on s'aperçoit qu'on a souvent un rôle d'assistante sociale, plus que de gendarme côté répression de la chose.
Je voulais rebondir sur le mot utilité parce que tout à l'heure on parlait un peu de fatigue et de rythme un peu effréné. C'est vrai que parfois on peut être un peu fatigué parce qu'on n'a pas dormi de la nuit, etc. Et en fait, comme on donne un peu un sens à nos vies en étant utile, cette fatigue, on la sent pas en fait. Alors après, c'est sûr qu'on a des moments un peu durs. D'ailleurs, l'humour des pompiers est assez connu parce qu'en fait, c'est notre soupape de décompression quand on vient de faire quelque chose de compliqué, même au travail. Hein. je suis connue pour être un peu bout en train. Et je pense que c'est nos soupapes de décompression, l'humour. Mais bon, c'est sûr qu'on ne voit pas toujours des choses évidentes. Par contre, il y a des moments vraiment magiques. On ne fait pas toujours des choses. Il y a des accouchements. Il y a... Voilà, en fait, la polyvalence, elle part vraiment du secours routier avec les policiers. Elle part du secours à personne. Parce que, en effet, le trois quarts de notre métier maintenant se tourne vers le social. Avec de la détresse psychologique là, qui s'accentue ces dernières années, notamment avec le Covid, où là... Il y a eu un effet quand même compliqué pour certaines personnes. Et la relation se crée parce qu'en plus, parfois, on fait toujours les mêmes personnes, des personnes
c'est-à-dire
assez connues.
C'est-à-dire qu'on intervient pour les mêmes personnes ouais. dont les situations évoluent peut-être pas.
Dont les situations et peut-être même le fonctionnement de notre société à un moment ne sait plus quoi faire de ces personnes. Je pense aux SDF, je pense aux personnes victimes d'alcoolémie, bon, les week-ends, etc. On fait assez souvent des interventions au niveau des gares.
C'est peut-être quelque chose qui vous rassemble tous, finalement. Vous êtes un service d'urgence un peu bout de course. Toutes les personnes qui ne savent plus qui appeler se tournent soit vers le 18, soit vers le 17 pour la police, la gendarmerie ou les pompiers, finalement.
Tout à fait. En fait, le trois quarts de nos missions aujourd'hui, c'est de l'aide aux personnes... en détresse relative, pas forcément urgente. Par contre, on reste sur des missions d'urgence absolue parfois, mais ce n'est pas ce qui représente le trois quarts du métier finalement.
Et toi, il y a eu un temps fort ou une intervention plus marquante que toutes les autres ou pas? Ou plusieurs, tu disais un accouchement peut-être, on s'en
oui.
souvient ça.
Alors oui, bah, l'air de rien, j'étais plus paniquée à l'idée de faire un accouchement que... que trouver un pendu dans la maison, mais c'est peut-être une question de caractère, ça peut paraître bête, mais un accouchement, ça peut être compliqué à gérer et on n'est pas forcément formé sur ça.
En tout cas, comme on peut, j'imagine.
En tout cas, au premier accouchement, oui, c'est pas évident.
Ah, parce que tu en as dirigé plusieurs au final.
Oui.
Ah, et ben dis donc. Tu te souviens des prénoms de ces petits enfants?
Non, c'est pas toujours la suite.
Oui.
Non.
C'est pas frustrant, ça, de pas savoir forcément la suite.
Si. Des fois, on essaye de se renseigner par nos collègues qui sont dans les hôpitaux parce qu'on est sur un hôpital de secteur. Donc, de toute façon, on y retourne et on prend des nouvelles. Mmh. Mais quand on dépose la victime, parfois, on sait pas trop ce qui devient. Après, c'est aussi une protection. Je pense qu'il faut pas toujours tout savoir parce que ça pourrait peser sur nos vies sur le long terme.
Selon toi, pour être volontaire et par extension réserviste, quel trait de caractère il faut avoir ou qu'est-ce qu'il faut ressentir en soi pour s'engager dans ces directions-là?
Je pense que la devise des sapeurs-pompiers, en tout cas du SDIS, c'est courage et dévouement. Je pense que le courage se travaille, par contre le dévouement, je pense qu'il faut l'avoir sinon on ne tient pas sur le long terme. Je pense que c'est un beau mot, le dévouement.
C'est marrant parce que y a beaucoup de choses que tu dis, finalement, qu'on retrouve aussi, en tout cas dans le cadre de la police, à mon avis, de la gendarmerie, que ce soit dans la nature des missions, au final, bon, la police a un volet un peu plus répressif. C'est normal parce qu'on est employé pour appliquer la loi. Mais dans le 10e arrondissement, il y a quand même beaucoup de sans-domicile fixe. Il y a certaines personnes qu'on revoit souvent, avec lesquelles on noue quasiment une relation. Et on intervient auprès d'elles, non pas pour dans un cadre répressif, mais vraiment pour les aider et pour les accompagner, notamment vers l'hôpital. C'est dans ce cadre-là qu'on a beaucoup de rapports avec les pompiers, notamment. Et puis, je pense que les mêmes qualités sont requises de la part des policiers comme des pompiers, à mon avis, des gendarmes.
Et puis, il faut de l'empathie et ne pas hésiter à se remettre en question. Alors, c'est peut-être plus facile pour un volontaire parce que, par exemple, je vous cite tout à l'heure, j'ai cité qu'on nous mettait dans la caserne de secteur où on habite. J'ai pour ma part toute ma famille dans ce secteur. Donc, quand je pars en intervention, parfois, je me dis aussi que ça pourrait être mes parents ou... Voilà, des fois, quand je regarde l'adresse, j'ai pas... Et voilà, et puis après, on connaît tous des gens dans notre famille qui ont des problèmes et qui peuvent tourner à finalement cette détresse sociale. Donc, bon, faut pas oublier qu'on est au service des autres et que, voilà, on doit pas juger ou...
Mais quand même, pour compléter aussi, la petite difficulté, c'est de tomber l'uniforme et puis de reprendre son habit de civil. C'est vrai que il faut de l'empathie, mais il en faut pas trop. Il faut savoir évacuer ce que l'on voit. Il faut savoir garder ça pour soi, parce qu'il faut pas externaliser et importer ça.
Oui, c'est son engagement à soi. C'est pas forcément celle de ses proches.
Et parler de tout ça, bon, il y a un petit peu la réserve de nos missions, mais il y a aussi tout le monde n'est pas prêt à entendre ce que l'on voit et ce que l'on entend. Et ça, c'est difficile parce que moi, j'ai un parcours précédemment, je faisais des maraudes. Et les maraudes, c'est pareil, vous voyez, toujours ce besoin d'être au service des autres. Mais c'est violent, quoi. Ce que l'on voit, c'est parfois violent, cette misère, que ce soit la misère, que ce soit la violence, l'agression ou... C'est violent et ça a évacué. Alors, on peut en parler entre collègues, mais les collègues, quand on est dans notre sphère professionnelle ou privée, ils ne sont plus là. Et ça, parfois, c'est difficile, mais ça s'apprend. Ça s'apprend parce qu'on n'est pas tout seul malgré tout. Et voilà, il faut, cette petite parenthèse, il faut apprendre à évacuer tout ça.
C'est vrai que c'est très particulier. Je me vois encore, il y a des jours où je suis en uniforme, où je fais preuve d'une autorité qui est totalement différente que celle quand je suis avec mes amis de l'école, où parfois il faut que je fasse preuve d'une violence qui est légitime dans le cas où, parce que j'applique la loi, ou quand il faut interpeller quelqu'un qui est récalcitrant, quand j'interviens dans le cadre de violences conjugales, qui sont toujours des contextes extrêmement, extrêmement difficiles, où tout est très explosif, où on est vu d'une autre façon, parce que quand on porte l'uniforme, tout de suite en fait, on remarque que les gens nous traitent d'une façon différente. On doit faire preuve d'une certaine distance avec les personnes avec lesquelles on parle. On doit, en gros, incarner une certaine fonction. Et le passage à notre autre vie...
La bascule, façon, finalement.
Même si je l'ai moins vécu que mes deux collègues à table, c'est quelque chose qui est quand même très, très particulier. Et parfois, un peu brutal, même.
Quand on porte l'uniforme, on représente un peu plus que soi-même, finalement. Représente une part de l'État, une part, comme tu le dis, de la violence légitime, une part de l'autorité.
Alors c'est quelque chose qui, à mon avis, il faut avoir un certain courage pour l'assumer, mais qui aide aussi. Parce qu'au début, moi j'étais un peu, évidemment, comme à mon avis tous les policiers, qu'ils soient réservistes ou non, un peu désarmé, c'est une façon de parler, quand j'étais sur la voie publique, parce qu'il y a ce qu'on nous apprend en théorie, puis en plus, ensuite, il y a ce qui se passe quand on est déployé. Et au final, l'uniforme, en fait, fait toute une partie du travail, au début en tout cas.
Est-ce que, Johan, mais je crois que je connais ta réponse, est-ce que tu recommanderais à d'autres de s'orienter vers la réserve quand on s'intéresse à ces métiers de la police?
Oui, et même si on ne s'y intéresse pas d'ailleurs. À mon avis, c'est, comme je l'ai dit, une étape qui est, si ce n'est obligatoire, en tout cas très fortement recommandée pour les personnes qui veulent rejoindre l'institution, à mon sens, mais même pour les personnes qui ne souhaitent pas rejoindre la police, c'est une façon, à mon avis, qui est très noble de s'engager, parce que c'est très dur, et on y voit des choses, à mon avis, qu'on ne voit pas au quotidien, et on comprend un certain nombre de choses.
Est-ce que ça change, voilà, son regard sur la société, peut-être son sens de la démocratie, de ce qu'on veut pour la société? Est-ce que, toi qui as fait des études de sciences politiques, est-ce que ça change ton regard, finalement, sur le vivre ensemble?
Ah oui, alors, vraiment, moi, ça m'a énormément marqué. J'ai eu des interventions qui étaient... Qui m'ont beaucoup touché, et en tout cas sur lesquels j'ai beaucoup réfléchi après. Et on fait face à souvent une détresse sociale. En fait, on fait face au pire quand on est dans ces métiers-là. Quand on est policier, en plus, on n'est pas du tout appelé quand ça va, quoi. Et c'est quelque chose que je me suis employé ensuite à transmettre à mes amis à l'école, avec plus ou moins de succès, mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Ouais.
Donc toi, ta recommandation, c'est... Engagez-vous dans la réserve opérationnelle de la police, même si vous n'êtes pas trop intéressé par ces métiers, parce que ça va changer quelque chose en vous.
Oui, puis on se sentira utile, et c'est toujours important d'avoir un sens.
Et toi, Charles-Antoine, tu recommandes? Un peu, beaucoup, passionnément?
Mais totalement, parce que c'est une expérience à vivre, ça nous responsabilise. Bon, moi je suis ancienne école, hein, je vais, on va pas se cacher la face... Moi, c'était la période où le service militaire était obligatoire, et je pense que c'est un acte de citoyenneté que de s'engager dans des réserves, dans des activités comme celle-ci. Que ce soit pompier, que ce soit police nationale, le mieux c'est que ce soit la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale. Mais vous voyez, pour moi, c'est primordial, c'est un acte de citoyenneté, on doit ça à notre pays.
Et toi, Mélanie ?
Je le recommanderais à 1000%, d'autant plus qu'en fin de compte, si on peut parler, on parlait de politique, mais je pense qu'il y a aussi un aspect philosophique. On voit la vie vraiment autrement et ça pousse vraiment à en profiter, en fait. Puisqu'on se dit qu'on peut aussi mourir demain, finalement. Je pense que notre regard sur la vie change, donc c'est intéressant.
Ça nous rend meilleurs.
Ça nous rend, bon, oui, espérons que ça nous rende meilleurs et plus proches de la vie.
Eh bien, c'est toi qui auras le mot de la fin, Mélanie. Je comptais, je t'avoue, citer Winston Churchill, qui avait dit « Être réserviste, c'est être deux fois citoyen ». Parce que je trouvais que c'était une belle citation, mais je trouve que ta citation à toi, elle est encore plus belle. Ça nous rend meilleurs, ça nous rend plus proches de la vie. Eh bien, merci à tous les trois. En tout cas, je vous souhaite une bonne continuation dans votre vie personnelle, professionnelle, dans votre engagement. Et puis toi, Johan, je te souhaite de réussir ce concours difficile que tu es en train de passer.
Merci.
On ira voir les listes pour voir si tu as réussi cette étape importante. Et puis, de retour dans vos services, vraiment transmettez à tous vos collègues, tous vos camarades, tous les autres volontaires et professionnels des sapeurs-pompiers, tout notre soutien, parce qu'on sait le courage qu'il faut, le dévouement qu'il faut. Tu l'as dit, Mélanie, et vous étiez tous les trois d'accord pour exercer ces métiers au service de nos concitoyens. En tout cas, je vous souhaite à tous une bonne journée et puis à bientôt pour un nouveau podcast.